parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyens. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Comment devenir un entrepreneur innovant? Vous savez, on parle de plus en plus de l'innovation dans les domaines de l'entrepreneuriat. Pour les experts, l'innovation est cruciale pour la survie des entreprises. Elle tient une place cruciale dans la réussite de celles-ci. Une entreprise qui met en place des stratégies innovantes renforce sa réputation vis-à-vis de ses consommateurs, de ses collaborateurs et de ses concurrents, selon les spécialistes. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Comment stimuler l'innovation dans votre entreprise? Qu'est-ce qu'on gagne en innovant? Bien, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité Joël Tembo-Vuira. Il est responsable de Kivu Entrepreneur et promoteur du salon d'innovation du Kivu. En passant, nous annonçons que ce salon aura lieu du 28 au 29 novembre à Goma, voilà, dans la province du Nord Kivu. Alors, Joël Tembo-Vuira, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Merci beaucoup pour ce bon sujet qui est d'actualité dans la ville de Goma à la veille du salon d'innovation du Kivu. Pour juste peut-être corriger, qui se tiendra du vendredi 29 au samedi 30 novembre, donc cette semaine.
Voilà, ce sera plutôt du 29 au 30 novembre cette semaine à Goma. Alors, qui est un entrepreneur? On parle de l'innovation dans l'entrepreneuriat. D'abord, c'est qui un entrepreneur?
Oui, pour parler d'entrepreneur innovant, comme vous avez introduit, nous devons d'abord savoir ce qu'est un entrepreneur. Parce que auparavant, on confondait un entrepreneur, on assimilait un entrepreneur à un commerçant ou à un homme d'affaires. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a introduit dans la communauté une solution marchande. Et par solution marchande, j'attends une solution à un problème, c'est-à-dire quoi? Un souci qui agace une population donnée, un entrepreneur va réfléchir pour proposer une solution et la solution qui va constituer un soulagement. Mais cette solution étant marchande, ça va lui constituer une source de revenus. Et voilà pourquoi nous définissons un entrepreneur comme toute personne qui initie une activité génératrice de revenus nouvelles en répondant à un problème. Donc ici, nous présentons un entrepreneur comme tout apporteur de solutions. Et une solution à quel problème? En fait, ce sont les problèmes que nous vivons dans la vie courante, dans les vécus courants. C'est ces problèmes des manques de biens de qualité, ça peut être un problème des manques d'électricité, ça peut être un problème des manques d'eau, ça peut être un problème des réglementations de la circulation, ça peut être un problème de difficile accès aux informations, ou ça peut être un problème lié au manque d'hygiène, et un entrepreneur va apporter la solution, un problème lié à une maladie donnée, et un entrepreneur va proposer une solution, mais la solution qui va être payée par ceux qui subissent les problèmes. Donc c'est un peu ça. Mais cette activité génératrice de revenus, c'est aussi une activité qui est bien organisée, de façon à ce qu'elle soit durable et qu'elle dure longtemps, parce qu'ici l'entrepreneur, c'est lui qui crée l'entreprise, et l'entreprise est définie comme une institution qui est censée durer longtemps plus que les créateurs, plus que l'entrepreneur.
Voilà, et aujourd'hui, actuellement, on parle de plus en plus de l'innovation dans l'entrepreneuriat. C'est quoi l'innovation, Joël?
Oui, en fait, l'innovation est définie comme une recherche constante d'amélioration dans ce qui est fait par l'entrepreneur. C'est-à-dire quoi? Un entrepreneur innovant, il ne se contente pas du stade atteint actuellement, mais il se pose des questions sur comment je peux encore plus satisfaire mes clients. Et du coup, c'est un entrepreneur qui va être prêt à l'écoute à ses clients. Et un entrepreneur innovant, c'est un entrepreneur d'abord qui étudie bien le besoin du consommateur, parce qu'il faut dire que nous sommes dans un contexte où les consommateurs sont très exigeants. Les consommateurs veulent de la qualité. Les consommateurs veulent un service et un produit de haute qualité. Et pour y arriver, les entrepreneurs sont appelés à innover. Mais aussi, nous sommes dans un contexte de mondialisation où nous produisons, mais aussi nous sommes sur les mêmes marchés qui sont inondés par des produits qui viennent d'ailleurs, d'autres continents. Et pour cela, les entrepreneurs, pour se maintenir, ils doivent innover, ils doivent se rassurer que leurs produits sont à la hauteur des exigences des clients, mais aussi peuvent faire la concurrence d'autres produits qui viennent d'autres cieux. L'innovation, c'est aussi apporter des nouveautés, parce que aussi les clients n'aiment pas la monotonie. Mmh. Les clients aiment voir des changements. Et un entrepreneur innovant va être à la hauteur, parce que pour lui, les clients vont trouver toujours que les gammes de produits ou de services proposés répondent à la satisfaction des clients. Et dans les vécus quotidiens de l'entreprise, l'entreprise va être très réceptive au feedback. Nous déplorons le fait que dans certaines entreprises de services ou qui vendent des produits en RDC, les gens s'en foutent du feedback des clients. Si les clients n'est pas satisfait, donc on s'en fout. Mais ici, dans le contexte de l'innovation, l'entrepreneur doit être très réceptif, très sensible et se rassurer que les petits feedbacks, les petites réactions des clients font l'objet d'une étude de sa part et demain proposer un produit plus meilleur, un service plus meilleur. C'est un peu ça en résumé.
Alors, vous êtes responsable des Kivu Entrepreneurs qui encadre des jeunes entrepreneurs. Alors, parlez-nous déjà des quelques innovations que ces jeunes ont déjà eu à apporter sur le marché de Goma par rapport à ce qui se faisait déjà avant.
Oui, pour le marché de Goma, d'abord, Goma, c'est une ville qui est à l'ouverture de l'Afrique de l'Est. Donc, tous les produits que nous consommons venaient presque de l'extérieur. Et actuellement, nous sommes en train d'observer l'innovation de la part de nos entrepreneurs dans le secteur de l'agroalimentaire, où nos rayons des supermarchés sont de plus en plus inondés des produits faits localement, partant de l'imagination des entrepreneurs. Je vais parler, par exemple, du secteur agricole, où une ville comme Goma, qui a plus d'un million d'habitants, d'ailleurs, toute la partie est de la RDC, donc partant de Tanganyika jusqu'à la province orientale, c'est plus de 20 millions d'habitants qui dépendent essentiellement des produits qui viennent des pays de l'Est, notamment l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le secteur avicole, nous avons des entrepreneurs qui sont en train de produire d'adapter des incubateurs qui permettent de produire les poussins et avoir toute la chaîne des valeurs jusqu'à l'abattage des poulets. Aujourd'hui, on a la fierté à Goma d'avoir des entreprises comme Kivuku, une entreprise qui est une des Kivu entrepreneurs, qui permet aux entrepreneurs, disons à la population, d'avoir du poulet frais, du poulet abattu, mais frais, produit localement, parce qu'il faut dire que les poulets congelés qui est consommé en RDC, c'est du poulet qui a été abattu et congelé pendant des mois, mais on peut trouver actuellement à Goma du poulet congelé, qui n'a que 3 jours ou 1 semaine, et avec toute la saveur naturelle. Actuellement, nous avons le cacao qui est un des produits qui est en train d'être produit, notamment dans la région de Beni et de Walikale. Nous avons actuellement des entrepreneurs qui viennent de mettre en place une poudre de cacao, donc qui vous permet d'avoir un produit local. Contrairement à ce que nous avons vécu, d'ailleurs il y a beaucoup de mythes autour de ça où on dit que le cacao ne peut pas être transformé localement, mais aujourd'hui nous avons Goma qui transforme le cacao, qui vous font du chocolat, mais aussi qui vous font la poudre de cacao qui peut être utilisée pour les petits déjeuners et pour d'autres pauses café et consorts. Alors ça c'est une... Nous avons un entrepreneur qui a fait une machine qui produit l'énergie libre. Et là, c'est Garouk Industries, une des startups qui ont été accompagnées par Kivu Entrepreneurs. Si je vais dans le domaine des services, nous avons des entreprises comme HKS, une entreprise qui a innové dans le domaine des services en offrant à la population des agents de ménage bien formés, qui sont formés en termes d'éthique, en termes de soins, en termes d'offrir les premiers soins de secours, surtout ce qu'il faut pour qu'un agent de ménage puisse être efficace dans son travail. Donc oui. Les exemples sont multiples parce que nous avons dans notre répertoire les 60 startups dont chacune est en train d'innover dans son domaine. Dans le domaine de l'environnement, nous avons un entrepreneur qui produit de foyers améliorés et qui permet à la population d'en bénéficier.
Voilà.
Et cela permet, oui, de réduire la dépendance aussi de la coupe de bois.
De bois.
Donc, les exemples sont multiples. Si
d'accord,
on aurait le temps, on pouvait vraiment les décortiquer un à un jusqu'à arriver à 60.
Voilà, il y en a plusieurs. On retient qu'un entrepreneur innovant, c'est celui qui apporte la nouveauté par rapport à ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, les clients sont devenus trop exigeants, ils veulent la qualité, et il est important d'avoir aussi le feedback de nos clients. Nous allons accueillir deux auditeurs. Omer Bagno nous appelle depuis Arou. Jérémy Mwamba est à Lubumbashi. Vous avez des questions par rapport à l'innovation dans l'entrepreneuriat. Appelez au 081 890 63 94.
Leur quotidien, préoccupation et ambition, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Comment devenir un entrepreneur innovant? Omer Bagno, vous êtes à Arou, bonjour.
Bonjour monsieur la journaliste, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi.
Omer, quelle est votre question?
Bon, mon intervention est que, si par exemple, si on parle de l'entrepreneuriat, il est question de prendre des risques, c'est-à-dire vous mettez quelque chose à jeu, pour que vous puissiez évoluer à la prochaine occasion économiquement. Alors, ça peut être un échec ou soit une réussite. Je voudrais que l'invité puisse nous dire quels sont les préalables pour que une personne puisse avoir la réussite à cette idée entrepreneuriale. Merci.
Bien. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour également à notre invité. Je salue la pertinence de ce sujet. Vous savez, quand vous parlez de comment devenir un entrepreneur innovant, vraiment ce qui m'a plu c'est juste les qualificatifs, hein, parce que vous savez, dans notre pays on est vraiment mal habitué à la routine et lorsque on voit quelqu'un se lancer dans une activité quelconque, tout le monde s'affile à ce domaine. C'est pourquoi ceci constitue aussi un frein au développement de notre pays. Comment voulez-vous? Quelqu'un veut s'adhérer à telle chose, il innove quelque chose? Non, on ne doit pas rester tous. C'est pourquoi on essaie un peu aujourd'hui, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, on essaie de s'atteler à un seul secteur et pourtant il y a bien d'autres secteurs. Mais je pense que ce système est à encourager. Il revient aussi également au ministère et en charge, je ne sais pas, PME, de pouvoir aussi encourager de telles initiatives pour les fils et les filles de notre pays. Vous savez, j'ai vu une madame qui a créé quelque chose là, je ne sais pas, un robot, il a été une innovation ici au jour d'aujourd'hui, mais je pense que cela ne pouvait pas constituer un frein pour un fils ou une fille de ce pays qui s'adonne à quelque chose qui peut progresser ou propulser notre pays vers l'avant. Il faut vraiment encourager de telles initiatives salutaires pour notre pays. Et il revient aussi, ça c'est une question que j'anticipe, pour notre intervenant du jour, qu'est-ce que l'État prévoit dans les cas spécifiques pour les gens qui apportent un plus dans les cadres des innovations dans notre pays? Qu'est-ce que l'État aussi réserve pour cette catégorie de gens? Et aussi de deux, il y a certains gens qui apportent certaines innovations, mais c'est pourquoi ils se retrouvent devant des gros handicaps, entre autres, parce que ça doit leur apporter quelque chose. Il y a aussi des multiplicités de freins tels que, je ne sais pas moi, des taxes, des impôts, des taxes qui sont là, qui constituent aussi pas un garde-fou pour un fils de ce pays qui apporte quelque chose. Je pense qu'il revient maintenant là d'encourager un peu certaines initiatives qu'on octroie à notre pays. Et ça, c'est un point. Un fait aussi, c'est quoi? Vous savez que dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui viennent qui ont les soucis de mieux faire. Mais pendant qu'ils se retrouvent que l'environnement n'est pas propice. Qu'est-ce que l'État aussi préconise dans les cas spécifiques pour pouvoir ne plus que octroyer un environnement d'ouverture pour des gens qui ont quand même de bons soucis pour pouvoir innover dans les cas de l'entrepreneuriat en ce pays?
D'accord, merci Jérémy. On va donner la parole à Glody de Bandounouville. Bonjour Glody.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour également à l'invité, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à l'innovation dans l'entrepreneuriat?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Je pense bien que l'innovation, ce sont des choses qui vont faire à ce que notre pays puisse développer, notre pays aille de l'avant. Alors parfois, certaines personnes qui viennent avec l'innovation, ils sont découragés par les impôts, par des taxes, tout ça. Précisément ici dans la ville du Bandundu, il y a beaucoup de projets qui sont faits, qui sont venus ici, mais ils sont découragés. Ils n'ont pas même installé mais tel service, un service de PME, tel service commence à passer. Parfois, ils sont découragés avec ce genre de projets.
D'accord.
Alors, je pose la question à notre invité, qu'est-ce qu'il peut conseiller à ce genre de personnes qui sont déjà découragées? Et par rapport à l'innovation, il y a combien de types de l'innovation? Parce que nous avons beaucoup d'innovation, par exemple au commerce, tout ça. Alors, l'innovation qu'il est en train de parler par rapport à un changement, quel est le type d'innovation? Tu peux nous dire à ce moment, peut-être ça peut aussi nous fortifier, à trouver aussi des solutions dans les différents secteurs et notre pays aussi peut être développé.
Merci.
Je voulais partager pour vous aujourd'hui.
Merci, Glody de Bandundu-Ville. Joël Tembo, vous avez la parole.
Ouais, merci beaucoup. Je vais commencer par la question de Monsieur Omer qui est à Arou. Lui, il a posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'on entreprenne sans vraiment échouer, avec toutes les chances de réussite. Donc la première chose, c'est que pour entreprendre vraiment réussir, nous parlons dans qui vaut entrepreneur de la notion d'entrepreneur intelligent. Et pour un entrepreneur intelligent, c'est quelqu'un qui étudie bien son projet avant de s'y lancer. D'abord, un entrepreneur qui va réussir, c'est un entrepreneur dont la solution constitue dans les business constitue une solution à un problème qui agace une masse de gens. Et il faut vous rassurer que cette solution est une solution à un problème qui est durable. Parce que plus la solution est durable, plus votre business sera durable. Et les anglophones parlent du monde sustainable. Donc, ça c'est le point zéro. La deuxième chose, vous devez faire une bonne étude de faisabilité de votre projet. Et nous avons plusieurs types d'analyses. Il y a l'analyse soft et d'autres types d'analyses. Troisième chose, vous devez conceptualiser votre business model, vous rassurer que votre business model est bien conceptualisé. Et là, à ce niveau-là, ce sont des notions souvent que nous ne recevons pas à l'université, à l'école. Mm-hmm. Donc là, nous invitons tous ces jeunes de se joindre au centre d'encadrement, notamment des incubateurs et des académies. Et pour les cas de commande, nous avons un niveau entrepreneur qui a une académie qui, chaque 3 mois, offre ces formations-là. Je ne sais pas si à Arou il y en a, mais nous offrons aussi des accompagnements à distance pour ceux qui le veulent. Donc, vous conceptualisez bien votre business model. Ensuite, vous développez un bon business plan et là, vous êtes accompagné par des conseillers qui vous aident vraiment à toutes les étapes de filtrer les éléments qui peuvent vraiment entraîner l'échec. Et là, vous n'avez pas encore enregistré l'entreprise parce qu'il y a aussi ceux qui ont parlé des tracasseries. Maintenant, après tout ça, vous devez passer au développement du produit. Vous devez arriver jusqu'à ce qu'on appelle les minimum viable products, donc produits minimum viables, avant même de vous lancer sur les marchés. Ce que nous réalisons, c'est quoi? C'est qu'aussi, il y a des entrepreneurs qui lancent des produits sur les marchés ou des services, ce n'est pas encore à une étape, à un stade viable. Donc rassurez-vous que c'est déjà viable, donc ça veut dire quoi? Ça peut être très apprécié, et là, procéder à des tests. Pour moi, c'est après ces étapes-là, maintenant, que vous allez passer à la formalisation. Et la formalisation, c'est quoi? C'est maintenant passer à l'enregistrement. Tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est une des étapes où on est à l'incubateur, on est suivi par l'incubateur, on n'a pas encore commencé. Maintenant, à l'enregistrement, l'incubateur va vous conseiller comment procéder. Parce qu'il y a des entrepreneurs aussi qui vont vite à besogne. On n'a même pas encore un minimum viable product, mais on va s'enregistrer, on va souscrire au document juridique. Et là, ça va vous causer des soucis sérieux parce que dès que vous souscrivez à des numéros d'impôt, dès que vous souscrivez à des permis d'exploitation, ça implique déjà des obligations à terme des déclarations et consorts. Mais lorsque vous faites conseiller, vous allez aller à chaque étape au moment opportun. Donc ça va vous permettre d'éviter l'échec. Et maintenant, quand vous allez lancer votre produit, vous l'aurez déjà testé, restez toujours attentif au feedback des clients, mais aussi rassurez-vous que vous avez bien fait l'étude des concurrences et tout ça c'est dans le business model et dans le business plan. Donc oui, avec cette étape-là,
Joël,
les chances de l'échec sont minimisées.
Voilà.
Bon, il y a aussi l'aspect sur les financements, les styles des financements.
Oui. Vous avez suivi la préoccupation de Jérémy Mwamba. Il dit, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous pouvez innover, vous lancez un nouveau produit ou une nouveauté dans la manière de faire. Et c'est tout le monde qui vous suit, qui veut faire comme vous. Et ça décourage certains entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Oui, pour ces cas-là, il faut vous rassurer que vous êtes démarqué parce qu'un entrepreneur innovant, il a sa solution. Et vos solutions, vous vous rassurez de la rendre un peu particulière. D'autres solutions d'autres entrepreneurs. Et là, je vais citer par rapport à la question des glodis, quels sont les types d'innovation? La première type d'innovation, le premier type d'innovation, c'est d'abord partant du produit. Donc les produits, vous devez l'innover. Mais aussi, nous avons aussi l'innovation technologique. Vous devez intégrer les composants technologiques dans votre produit. Ça peut être un produit, comme j'ai parlé d'un chocolat, ça peut être, je ne sais pas, un dérivé de manioc ou de la patate ou dérivé de notre produit ou de la canne à sucre. Mais des produits, vous l'avez innové, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi innover en y intégrant la technologie. La technologie, ça peut être la façon de commercialiser votre produit. Et là, je vais citer, nous avons des entreprises comme Fine Solution, comme Naledi, comme Kivu Green, des entreprises de réseau Kivu Entrepreneurs, qui permettent à tous ces entrepreneurs-là d'innover en intégrant la technologie, notamment par la façon de vendre votre produit, arriver à ouvrir les champs de vos consommateurs en intégrant la technologie. L'innovation aussi par la façon de faire les marketing. Aujourd'hui, on parle de marketing digital. Le marketing digital, c'est le marketing qui vous permet d'utiliser les canaux digitaux, donc les digital, notamment les réseaux sociaux, notamment l'internet et consorts. Aujourd'hui, c'est déplorable. Vous trouvez un entrepreneur qui a un produit smart, mais quand vous lui demandez où est votre site web, il n'en a même pas. Donc, c'est quand même déplorable. Donc, tout ça, ça permet à l'entrepreneur de maximiser ses chances de réussite. Maintenant, parlons des impôts et taxes, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ici, je vais dire que pour nous, on a fait une étude que c'est vrai, il y a des tracasseries, mais nous avons réalisé par nos études que les entrepreneurs qui subissent plus les tracasseries sont les entrepreneurs qui ne sont pas même informés sur quels sont leurs droits et leurs obligations fiscales. Et pour ces cas ici, nous avons résolu ça en intégrant la fiscalité dans les contenus que nous communiquons aux entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est déplorable de trouver des entrepreneurs qui sont sur le marché, mais qui ne maîtrisent même pas la fiscalité liée au domaine dans lequel ils interviennent. Donc, un entrepreneur qui veut maximiser ses chances de réussite, qui a innové, doit aussi travailler sur cet aspect-là, c'est-à-dire quoi? Bien vous informer sur les obligations fiscales, les intégrer dans votre business plan et au moment opportun, lorsqu'il sera question de payer, ça ne va pas constituer une charge parce que ça sera déjà intégré dans votre business plan. Et là, ça ne sera aucun souci. Et aussi, lorsque vous passez par des centres d'accompagnement, et pour celui qui est à Lubumbashi, nous avons des centres partenaires comme le centre d'innovation de Lubumbashi. Donc ce sont des structures qui permettent aux entrepreneurs d'être encadrés et accompagnés dans l'incubateur. En fait, les contrôles de l'incubateur, c'est quoi? C'est comme le poussin qui est protégé par la poule. Et nous aussi, nous protégeons les entrepreneurs.
Oui.
Nous avons actuellement une vingtaine d'entreprises qui sont suivies par l'incubateur pour les cas d'équipe entrepreneur. Et ces entreprises-là ne font pas l'objet des soucis par rapport aux questions fiscales. Et lorsque les entrepreneurs vont vraiment prendre l'indépendance de l'incubateur, c'est lorsqu'ils se seront rassurés qu'ils ont atteint un stade de maturité pour que leur business soit à mesure de prendre en charge les charges fiscales qui ont été budgétisées dans les business plans. Donc, pour ces cas-là, ça ne fait pas aussi des soucis.
Oui. On va accueillir Crispin Moulumba depuis Lubumbashi. Bonjour, Crispin.
Bonjour, chers journalistes. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Tous les millions d'auditeurs qui écoutent la radio Capi.
Quelle est votre question, Crispin?
Oui, avant de poser la question, cher journaliste, j'aimerais rebondir sur le raisonnement de notre intervenant. Il est un raisonnement vraiment très important. Je suis le fils d'un imprimeur et mon père fabriquait des registres. On s'est rendu compte que du fait qu'il fabriquait des bons registres, il y a des gens, n'est-ce pas, comme l'intervenant vient de le dire, qui se sont aussi tapés la poitrine hein, pour commencer aussi à fabriquer des registres, mais les registres n'étaient pas, par exemple, comparables à ceux que lui faisait, parce que c'est un agent de l'État et puis il était formé pour ça. Et ça nous avait un peu déstabilisé de part et d'autre. Face à cela, vraiment, c'était vraiment un échec pour notre famille. De deux, je voulais un peu poser la question à l'invité. Ici, dans la ville de Lubumbashi, par exemple, où je suis, il y a un problème des entrepreneurs. Qu'est-ce que les entrepreneurs font? Par exemple, le problème qui nous échappe ici, c'est le problème de la farine. Une fois que la farine hausse les prix, vous allez voir que les entrepreneurs, hein, n'est-ce pas, parce qu'ils ont leur stock, ils vont faire de sorte que les hausses, vraiment, que la farine soit prise à un prix un peu élevé, hein, juste au détriment de leurs intérêts. Est-ce que c'est comme ça que les entrepreneurs, bien qu'ils doivent travailler sur la réussite, est-ce que c'est comme ça qu'ils doivent faire? Parce que ce que nous voyons, vraiment, c'est contraire à ce que vous venez de nous dire. C'est ça ma préoccupation pour la journée d'aujourd'hui.
Merci. Soupi Nyembo, vous êtes à Kalima. Bonjour. Bonjour Soupi, vous êtes à Kalima, bonjour. Il n'est pas encore là. Bien, je reviens à vous, Joël Tembo. Vous avez suivi la préoccupation de cet auditeur qui vient de nous appeler des Lumbashi. Mais avant ça, il y a Jérémy qui a parlé, par exemple, de l'innovation. On a vu la dame qui a fabriqué le robot roulage. Ça, c'est une innovation. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Mais d'après lui, elle n'est pas du tout soutenue. Elle n'est pas encouragée dans cette innovation-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jérémy?
Oui, par rapport à la question de Jérémy, je sais que la vision actuelle des autorités, c'est d'appuyer vraiment les entrepreneurs innovants. Là, je vais parler de Makutano, où nous sommes aussi partenaires, et Makutano sera aussi présent au Salon de l'innovation du Kivu. Nous avons vraiment été marqués par l'engagement du numéro 1, donc Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui lui-même a pris l'engagement devant cette audience-là, réunie à l'occasion de l'invention de Makutano. Que le gouvernement est engagé à accompagner ces entrepreneurs innovants et pour servir d'exemple, il y a un entrepreneur présent au Makutano qui est de Kinshasa, qui a eu un marché pour digitaliser les systèmes scolaires. Et ça, c'est un des exemples pratiques. Mais aujourd'hui, nous avons le plan national du numérique qui doit être une opportunité pour tout entrepreneur qui veut vraiment innover et se l'approprier parce que les besoins sont énormes pour innover tous les secteurs de la vie publique mais aussi du secteur privé. Donc pour moi, je n'ai pas beaucoup de détails par rapport au niveau d'accompagnement du gouvernement, de cet entrepreneur-là dont je salue l'innovation dont nous visons aussi à Goma, dans tous les grandes villes de RDC, le robot roulage. Mais je peux rassurer qu'aujourd'hui, dans la vision actuelle des autorités, c'est de vraiment soutenir et accompagner tout entrepreneur qui apporte une solution innovante. Il faut vous rassurer que vous avez toqué dans la bonne voie. Et alors, je peux vous rassurer, nous avons, pour les cas de Goma, nous avons abordé les autorités pour le salon de l'innovation du Kivu et nous avons eu un soutien vraiment au-delà de nos attentes. Donc, pour vous rassurer que nos dirigeants, nos autorités, les institutions publiques sont vraiment engagés à soutenir l'innovation des entrepreneurs locaux.
Alors, parlez-nous de ces salons d'innovation du Kivu. Quel est son objectif? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif dans ces salons?
Oui, peut-être avant ça, on répond à la question de Christ, hein, qu'on a un peu laissé.
D'accord.
Qui a parlé des problèmes des entrepreneurs de Lubumbashi où il y a la spéculation autour du maïs. Mais je dois dire vraiment à tous ceux qui me suivent au Katanga, les grands Katanga, où ces problèmes de maïs est récurrent, parce que j'ai été même au niveau des Kalemi, c'est des dorables, que tout ce qu'il y a comme aliment, une bonne partie c'est importé maintenant de la Tanzanie avec des pirogues. Donc ceci, c'est une opportunité pour tous les jeunes qui me suivent ici, parce que nous avons des terres arables, et nous avons l'opportunité de nous y lancer. Et pour moi, je pense que tout entrepreneur qui est vraiment dans cette grande région du Katanga, les Haut-Katanga, les Tanganyika, l'Omami et consorts, ça c'est une opportunité que les entrepreneurs devaient s'approprier, c'est-à-dire quoi? Innover en termes de multiplication des semences améliorées pour produire les maïs à grande échelle. Innover dans la transformation locale du maïs pour qu'on arrive à l'autonomie alimentaire. Parce que ça ne fait pas vraiment la fierté du pays lorsque nous devons importer ces centaines de milliers de tonnes de maïs de pays de l'Afrique australe, alors que nous sommes un pays qui a vraiment des vastes espaces étendus arabes. Pour moi, ça vraiment, c'est une grande opportunité que chacun des auditeurs de cette émission devrait s'approprier. Et je suis pas maintenant sur les salons de l'innovation du Kivu, c'est ça même l'un de nos objectifs. En fait, les salons de l'innovation du Kivu, c'est un salon que nous avons initié l'année passée. Avant ça, c'était un forum d'entrepreneuriat que nous réalisions depuis 2015. Mais nous avons lancé les salons l'année passée. L'objectif, c'est quoi? C'est d'exposer tout ce qu'il y a comme fruit d'innovation, parce que la population pensait que tout ce qui est innovation vient de l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui se démarquent par l'innovation localement. Et le salon de l'innovation du Kivu, qui se tiendra cette semaine du 29 au 30 novembre à Goma, c'est une opportunité d'exposer les fruits de l'innovation locale. Donc, prouver que c'est possible d'avoir des entrepreneurs qui peuvent innover et arriver à offrir des produits et des services dans le même standard que les produits venus de l'extérieur. Mais aussi, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont intéressés à devenir entrepreneurs innovants, d'apprendre comment les devenir. Parce que dans tous les panels du salon, on va parler de ça. Les conclusions seront comment on peut devenir innovant dans ces secteurs, et comme nous aurons ces quatre secteurs clés, l'éducation, l'industrie, nous aurons l'éducation, nous aurons l'industrie, nous aurons le numérique, et on aura bien sûr l'agroalimentaire, ce secteur-là, qui seront à la une pendant les deux jours du salon.
Bien. Comment devenir un entrepreneur innovant? Kachai, vous êtes à Kanyoka, Benjamin nous appelle de Kananga. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Ma préoccupation est la suivante. Je voulais au moins demander à l'invité ceci que pour devenir un entrepreneur innovant, il dit qu'il faut passer d'abord par des formations, connaître ce que vous devez normalement faire pour bien le faire. Mais il se peut que pour participer à ces formations-là, monsieur Jody, l'on exige aux candidats certains frais. Par exemple, $50, ici, comme je le constate, $100 pour participer à la formation. Mais si vous n'avez pas $50 pour donner, comment vous allez participer à la formation et être formé sur ces domaines-là pour que vous puissiez normalement fournir le meilleur de vous-même? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est un constat. Monsieur, je dis ici, au Kasaï central, tellement que les gens ont un langage que j'appelle un langage des faibles, ils disent que la ville de Kananga est une ville administrative et non économique. Alors, c'est-à-dire que les gens s'attellent beaucoup plus à l'administration publique, ils ne veulent pas aller faire autre travail économique lucratif. Maintenant, nous avons connu un cas sérieux de pénurie, de famine, les maïs, les manioc, des biens de première nécessité sur le marché.
Oui.
On a constaté la rareté de ces biens-là. Maintenant, les gens ne voulaient pas aller cultiver, les gens ne voulaient pas travailler, ils attendaient seulement que tout vienne de Mweka, tout vienne de Kalambambouji pour qu'ils soient ravitaillés en aliments. Maintenant, quand nous avons connu ces problèmes-là de maïs, ceux qui avaient l'argent sont partis acheter des semoules, des maïs, par-ci, par-là, ils sont venus. Quand ils sont venus avec leurs biens, messieurs, je dis pour vendre, l'État a imposé les prix. Sans tenir compte du prix d'achat, des transports et les bénéfices aussi, on a imposé seulement un prix. Bon, je ne sais pas si c'est par rapport à la marge bénéficiaire. Je ne sais pas en matière de prix de maïs, s'il y a aussi la marge bénéficiaire, l'invité va nous le dire. On a imposé des prix et les gens se sont découragés. Ils ont dit, lorsque nous voulons faire, l'État s'impose et on ne sait pas bénéficier quelque chose dans ce que l'on fait. D'où on nous décourage, on ne fait plus que Kananga périsse dans la famine. C'est comme ça que nous sommes en train de périr jusqu'à aujourd'hui. Un méca de maïs revient à 5600 parce qu'il était déjà 8000. La troisième question, c'est pour terminer, monsieur Jody. Est-ce l'invité peut nous conseiller? Il y a moyen que nous puissions mener des activités dans une coopérative. Si quelqu'un n'a pas lui-même là des moyens financiers suffisants, conséquents, pouvant lui permettre d'entreprendre directement une activité, il peut s'associer à ceux-là qui ont des moyens. Or, quand vous vous associez sans moyens financiers, lors du partage des biens, on va partager au prorata de la contribution de tout un chacun. Maintenant, je voudrais au moins demander à l'invité, qu'est-ce qu'il peut nous dire, nous là, qui n'avons pas de moyens financiers conséquents, si nous pouvons aussi adhérer à une coopérative pour pouvoir nous produire ou soit nous procurer de biens dans ce sens.
Merci, Kachai. On va donner la parole à Benjamin de Kananga. Bonjour. Benjamin, vous êtes à Kananga. Bonjour. Eh bien, Benjamin n'est plus là. Joël Tembo, vous avez suivi Kacha, il dit innover, c'est bien, être créatif, c'est bien, mais parfois, mais pour devenir innover, il faut participer à des formations, et là-bas, là où il est, il faut payer $50 ou $100 pour assister et prendre part à des formations. Est-ce que c'est le cas aussi du salon d'innovation du Kivu?
Oui, bien sûr, l'innovation, ça implique un coût, mais aussi la formation, ça implique un coût. Je sais qu'actuellement, la plupart des structures qui offrent ces services de formation, d'incubation et d'accompagnement des entrepreneurs, ces services sont payants. Pourquoi? Parce que ces services impliquent des charges, en fait, notamment l'Internet, l'administration, l'espace loué et confort. Donc, il est pratiquement difficile, voire même impossible, que ces services soient offerts gratuitement. Donc, ce que je donnerais comme conseil à notre ami Kacha, c'est d'abord de considérer ça comme un investissement. Pour moi, ce que j'ai dit aux jeunes et à tout habit qui veut entreprendre, c'est que la formation, c'est le premier investissement. Et ça doit apparaître même dans votre bilan. comme votre premier investissement. On ne doit pas considérer la formation pour avoir des compétences qui vont vous disposer à réussir dans les parcours entrepreneuriales comme des fonds perdus. Non, c'est un investissement, c'est le premier investissement par lequel vous devez commencer. Et pour moi, c'est une étape vraiment incontournable, parce qu'aujourd'hui, si la RDC, on est un peu en retard par rapport à d'autres produits, c'est parce qu'à d'autres pays, c'est parce que cette approche des formations, on s'y focalise pas trop. Donc, tout le monde qui veut vraiment devenir entrepreneur innovant, vous devez d'abord investir dans la formation. Alors, deuxièmement, comment maintenant faire s'il n'a pas le moyen? Nous, au niveau de QVO Entrepreneur, nous avons une approche. Si vraiment vous avez une chouette idée et que vous n'avez pas de moyens, nous avons une façon de conclure les deals. Donc, nous pouvons vous accompagner gratuitement, mais après, il y a une participation dans votre entreprise. Et j'espère que cela peut être aussi une solution pour M. Kacha. Il peut aller voir la structure qui offre les formations. Et voilà, j'ai une belle idée. Je veux que vous m'aidez à la concrétiser. Et voilà, vous serez partie prenante dans mon projet. Nous le faisons déjà, donc ça peut être fait. Il y a beaucoup de jeunes que nous incubons maintenant gratuitement à contrepartie des services. Il y a aussi des jeunes qui offrent des services à l'incubateur et nous les prenons en charge gratuitement. Il peut aussi proposer un service à offrir à la structure qui offre les formations. Donc ça, c'est très indispensable. Maintenant, par rapport au défi de mobiliser les financements, qu'est-ce qu'il a même donné une solution, le fait de faire des coopératives pour les domaines, par exemple, agricoles, où c'est une longue chaîne de valeur. Donc nous recommandons, notamment pour ceux qui sont là dans l'espace Kassai, tous les grands Kassai, mais surtout les grands Katanga, c'est que je l'ai dit avant, de s'organiser en coopérative pour arriver à relever ces défis, d'arriver à produire quand même localement du maïs et faire de la transformation, parce que toute cette chaîne de valeur maïs, c'est vraiment une grande opportunité d'affaires pour les jeunes et les adultes de ces zones-là. Donc pour moi, je pense que tout ce qui a été présenté, je prends ça comme une opportunité, mais qui doit être vraiment capitalisé par tous ceux qui sont en train de nous suivre.
Bien, on va accueillir Maître Gaston de Kinshasa, bonjour. Maître Gaston, bonjour. Maître Gaston n'est plus là.
Je suis là.
Vous êtes là. Alors, quelle est votre question, Maître?
Il faut dire que l'entrepreneuriat, comme nous l'entendons en RDC, c'est pas l'apanage de tout le monde, étant donné qu'il n'y a pas vraiment l'instruction à la matière. Donc, les gens ne sont pas instruits, n'innovent même pas en réalité. Et j'allais dire que tout cela est le fait que dès le bas âge, nous sommes formés dans le sens d'exercer des fonctions par-ci par-là, et puis quelques têtes qui excellent peuvent comprendre qu'il faut créer dans la société, et puis ils ont toutes les informations possibles pour y parvenir. Donc moi j'allais insister que les invités puissent insister vraiment, c'est à mon avis, mettre les points, de taper sur cet esprit d'entrepreneuriat que nous constatons que ça n'existe pas vraiment dans la plupart des Congolais, même si ça a existé, mais c'est bafoué par le fait que ceux qui entreprennent ne sont pas instruits à la matière. Mais je voulais terminer pour dire que, à vrai dire, l'État congolais doit faire une chose pour que ceux qui écrivent, ceux qui ont des projets, à mon avis, des projets dans tous les domaines de la vie, des projets faisables,
oui.
Que ce projet-là puisse être financé dans tous les domaines, je dis que ce soit commercial, social, visant le bien-être collectif, visant le bien-être individuel, mais qui sont rentables et qui sont rédigés en bonne et due forme, que ces projets-là soient financés de telle sorte qu'on puisse travailler avec les têtes congolais qui pouvaient, parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est ce qui fera développer notre pays. Il faut vraiment que le gouvernement puisse... Je constate qu'il y a une tendance là où on est en train de recenser les têtes et puis...
D'accord, donc il faut que, d'après vous, il faut qu'il y ait des financements pour les entrepreneurs innovants. Joël Tembo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs? Joël Tembo, vous avez la parole.
Qui dit que les challenges que nous avons, les défis que nous avons en RDC, c'est que nous avons vraiment un faible niveau d'esprit entrepreneurial. Je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, la chose sur laquelle nous devons beaucoup plus travailler, c'est vraiment susciter l'esprit entrepreneurial. Et l'esprit entrepreneurial, c'est quoi? C'est d'avoir ce sens-là de créativité. L'esprit entrepreneurial, ça va aussi avec l'acceptation de la phase des sacrifices, parce que c'est que beaucoup de gens... n'acceptez pas la voie d'être entrepreneur, souhaite chercher longtemps à atteindre un emploi, c'est parce que l'entrepreneuriat, ça implique beaucoup de sacrifices, surtout dans les 3 à 5 premières années de la vie de l'entrepreneur. Donc, l'un des objectifs aussi de le salon que nous organisons, c'est de susciter cet esprit entrepreneurial parmi tous les participants. Et maintenant, par rapport à la question de financement pour boucler, c'est que je veux dire que j'ai toujours dit que tout un projet qui est innovant, ça mobilise les financements automatiquement. Donc si vous avez un projet innovateur, ça va mobiliser les financements. Mais c'est indispensable toujours de passer par la formation, parce que la formation va renforcer l'essence de cet esprit entrepreneurial. Mmh. La formation va renforcer votre niveau de passion pour vraiment avoir toutes les forces requises pour résister à toutes les tempêtes de la première phase d'implantation de votre projet d'entreprise et arriver à stabiliser. Parce que c'est l'étape la plus dure pour les entrepreneurs.
Alors,
et pour moi, j'ai toujours dit que oui.
Ah, pour les entrepreneurs qui sont dans la région du Kivu, par exemple, quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer en participant à ces salons d'innovation du Kivu?
Oui, pour les salons d'innovation du Kivu, et par rapport à ce coût qui est très abordable, parce qu'il ne se cache pas parler du coût des formations qui était au moyen de 50 dollars, mais le salon, déjà, c'est très gratuit. Donc, on ne paye que 10 dollars pour les 2 jours du salon. Et dans les 2 jours du salon, vous jouissez de toutes ces conférences où vous allez recevoir vraiment les ingrédients nécessaires pour être un entrepreneur innovant qui va réussir. Mais aussi, c'est une occasion de nouer des partenariats avec des partenaires qui viennent, qui potentiellement sont intéressés à financer des projets innovants. Donc c'est une opportunité pour tous ces gens qui ont des idées dans les tiroirs de venir les présenter, les exposer à des partenaires qui seront présents. Mais aussi, c'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs qui ont déjà les produits innovants de les exposer parce qu'ils nous offrent un espace d'exposition pour les partenaires qui vont les vendre. Et au-delà de ça, c'est une opportunité aussi de vendre tout ce que l'entrepreneur a comme idée, comme projet, parce que nous aurons beaucoup de séances de networking et de B2B. Donc voilà, c'est une opportunité à ne pas rater pour cet entrepreneur qui est au Kivu, notamment à Goma, à Bukavu et dans les environs.
Voilà, et pour ceux qui veulent participer, comment procéder?
Oui, pour ceux qui veulent participer, c'est très simple. Nous avons un numéro téléphone et WhatsApp, c'est le 097-56-94-577, je répète encore, le 097-56-94-577. Donc faites-nous un WhatsApp, on va vous orienter parce que nous avons une application mobile, SIC Event, c'est une application que nous sommes en train de lancer en partenariat avec la société Airtel pour faciliter les entrepreneurs de s'inscrire en ligne. Mais via ces numéros WhatsApp, c'est très facile, ou tous ceux qui sont à Goma, nous les invitons de passer au bureau de Kivu Entrepreneur, qui est au centre-ville de Goma, sur les immeubles King Shop, en face de TMB et station Ivoussi. Et donc, nous sommes très réceptifs à toute personne qui veut apporter aussi sa contribution pour que ces salons réussissent, et tous ceux qui veulent participer, bien sûr.
Bien, Joël Tembo, responsable de Kivu Entrepreneur et promoteur du salon d'innovation du Kivu, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'innovation dans l'entrepreneuriat. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup et coucou à tous les auditeurs de Radio Capi.